Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le confort dans l'habitat avec le partenariat Promotelec. On est ravis de vous accueillir pour une nouvelle émission sur le confort dans l'habitat. Vous le savez, chaque mois, ensemble, avec nos spécialistes, on répond à une question justement sur comment mieux habiter, mieux se loger, des conseils, des astuces, ou bien, ça existe aussi des nouvelles réglementations. On va se pencher ce mois-ci sur la réglementation environnementale RE 2020, c'est le projet du gouvernement pour une nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs qui viendra remplacer l'actuelle RT 2012. Alors le but de cette nouvelle réglementation, c'est de diminuer l'empreinte carbone des bâtiments, d'en améliorer les performances techniques. Un projet qui a connu et connaît encore de nombreuses évolutions. Alors quels sont les contours et les objectifs de cette réglementation? Quels en sont les enjeux ou encore les freins? Y aura-t-il un surcoût pour le consommateur? Deux spécialistes pour répondre à ces questions. Florence Delettre, directrice générale de l'association Promotelec. Bonjour Florence.
Bonjour Fabrice.
Et Julien Serry, délégué national aux affaires techniques, pôle Habitat de la FFB. Bonjour Julien.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Voilà, on est ravis de vous accueillir. Alors, messieurs, dames, voilà un grand thème, un gros morceau ce mois-ci. Florence, en introduction, un petit mot justement sur cette réglementation, nouvelle réglementation environnementale hein, qui a connu beaucoup de débats avant de sortir. Ça y est, c'est enfin, les contours en tout cas ont été jetés, donnés, précisés. Et je dirais, il y a maintenant plus qu'à la mettre en œuvre. On sent que ça ne va pas être évident.
Non, en effet, et elle est une étape majeure, peut-être pas la dernière, puisqu'il y a une évolution hein, de toutes ces réglementations qui ont eu lieu en France depuis même les années 70, hein, où on constatait qu'il y avait énormément de logements. À l'époque, dans les années 70, on parlait de 66% de logements non isolés, donc après on a eu toute une série de réglementations pour justement développer, encourager à la fois une construction responsable et puis des rénovations. Et puis à Promotelec, bien évidemment, on a un tour de table qui est exemplaire en la matière. On a à la fois des énergéticiens, des électriciens, on a aussi des promoteurs immobiliers et aussi des consommateurs, bien évidemment, vous comprendrez que les enjeux de cette réglementation environnementale 2020 concernent au plus haut niveau, parce que c'est une évolution de plus vers tout ce qu'on a entendu autour de la PPE, de la stratégie nationale bas carbone, sur justement la diminution de l'impact carbone qui est élevé, et non seulement diminution, mais arriver à une neutralité carbone dans les années futures.
Bien sûr. Un objectif plutôt louable, bien évidemment. Si on fait un peu les contours justement de cette RE 2020 pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est la RE 2020? Julien Serry, est-ce que vous pouvez nous préciser justement les contours de cette nouvelle réglementation?
Alors, il y a trois grands volets dans cette réglementation, dans cette RE 2020. Un volet énergie, un volet carbone et un volet confort d'été. Et sur ces trois grands volets, en fait, ils vont être répartis, on va dire, réglementairement autour de 6 indicateurs phares. On peut dire que les RT 2012, il y avait 3 indicateurs, un indicateur B-Bio, CEP, un indicateur de confort d'été. Là, on va avoir au niveau énergie 3 indicateurs, donc un indicateur B-Bio qui est dans la continuité, même s'il y a quelques changements par rapport à la RT 2012, un indicateur de consommation CEP également dans la continuité, et un nouvel indicateur au niveau énergie, qui est le CEP-NR, qui va caper en fait les consommations non renouvelables du bâtiment. Ça, c'est pour la partie énergie. Ensuite, il y a la grande nouveauté de la RE 2020, en tout cas celle sur laquelle il a été le plus communiqué, c'est la partie carbone. Là, il y a deux indicateurs. Un indicateur qui va s'appeler IC Construction, donc qui va calculer l'impact carbone des produits et des équipements du bâtiment par une analyse de cycle de vie. Ensuite, il y a l'IC Énergie qui va être calculé un petit peu de la même manière, mais qui va calculer en fait l'impact carbone notamment des systèmes énergétiques. C'est l'un des indicateurs qui a fait un peu le plus de bruit, on va dire, au niveau politique récemment. Et le dernier indicateur, c'est l'indicateur de confort d'été qui a été complètement revu par rapport à la RT 2012 et qui vise là à être un peu plus dimensionnant par rapport à la RT 2012 où on s'en occupait un peu moins, notamment dans les zones du sud de la France.
D'accord. Alors, évidemment, beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça change? Comment ça a été accueilli, justement, pour vous, à la FFB? Vous êtes partie prenante, vous avez participé au débat, vous avez conseillé peut-être sur certains plans?
Alors, on est en fait, on fait partie effectivement des discussions depuis la mise en place en fait du label E+, c'est moi. Il faut savoir que cette ère 2020, elle a démarré en fait il y a 4 ans, voire 5 ans même, à l'époque où on a mis en place le label E+, c'est moi. Et ce label, il était censé préfigurer la réglementation environnementale pour accompagner les professionnels justement vers une mise en place un peu plus fluide de cette ère. Bon, il se trouve que bon, nous, on a beaucoup contribué à remplir l'observatoire du label E+, c'est moins. Il se trouve qu'il y a eu beaucoup de changements depuis sur le plan technique, sur le plan des indicateurs, de comment on calcule un petit peu les différents seuils. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on aboutit à une réglementation qui rentre en application, rentre en vigueur pour le logement, en tout cas au 1er janvier 2022, date de PC faisant foi, et avec encore pas mal d'incertitudes, parce qu'il y a des indicateurs nouveaux qu'on ne connaissait pas trop, comme le confort d'été dont je vous parlais, des seuils carbone, bon, forcément qu'on ne maîtrise pas sur une réglementation un petit peu nouvelle comme ça. Donc, ce qui règne un petit peu aujourd'hui, surtout dans un contexte actuel, pénurie de matériaux et délais pas simples à tenir, c'est un petit peu l'incertitude, un petit peu de, entre guillemets, de crainte, mais il va falloir qu'on accompagne, notamment avec nous, la FFB, avec Promotelec, tout le terrain vers cette réglementation.
Ouais, accompagner effectivement tous ceux qui travaillent sur le terrain, qui vont devoir aussi faire l'heure, hein, ces nouvelles règles. Qu'est-ce que ça change chez Promotelec? Là aussi, vous avez participé, Florence Delettre, vous êtes impliquée dans ces modifications à venir et qui sont là pour s'inscrire évidemment dans la durée.
Oui, bien évidemment, on a, bien sûr, on présente les trois filières que j'ai citées auparavant. Donc, à nous de trouver, je dirais, le modus operandi pour que chacun comprenne, pour que chacun voit les enjeux et puis aussi être force de proposition, aussi bien sur la réglementation 2020, mais je crois qu'on arrive un peu au bout du bout. Il y a encore des choses, comme disait Julien, qui ne sont pas abouties, mais là, pour le coup, les grandes lignes, et plus que les grandes lignes, sont tracées. Maintenant, vous l'avez compris aussi, hein, c'est pas simple, c'est quand même une grande révolution qui va avoir des impacts pour tout le monde, aussi bien, je dirais, les constructeurs que même les occupants. Et puis donc nous, notre rôle, elle est aussi de communiquer, de prendre part au débat et de faire en sorte que, de toute façon, que cette réglementation soit appliquée. C'est un choix de toute façon gouvernemental et qui va dans le bon sens. Après, la finalité, elle est bonne, mais les moyens et les leviers, ce sont encore des choses qui sont parfois encore dans l'inconnu ou difficiles, ou des contraintes qu'il va falloir aussi apprivoiser et s'adapter selon la filière à laquelle on appartient.
Ouais, justement, Julien, vous avez parlé tout à l'heure d'une mise en action assez rapide, hein, 1er janvier 2022. Au niveau justement des calendriers, des dates, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que tout le monde va pouvoir passer justement de manière assez fluide et selon le calendrier, ou est-ce qu'il risque d'y avoir des décalages?
La période la plus compliquée, c'est cette période-là, en fait, en ce moment où il y a cette période de transition, où nous, en tant que maître d'ouvrage professionnel, qu'on soit promoteur ou constructeur, en fait, on est en train de signer des contrats, de vendre des maisons, des appartements, et parfois, on ne sait pas si on déposera le permis de construire avant ou après le 1er janvier 2022, ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas si la maison ou l'appartement qu'on a vendu sera soumis à l'ART 2012 ou à l'ARE 2020. Il se trouve que malheureusement, les textes ne sont pas encore parus, que les moteurs de calcul seront disponibles apparemment avant fin juin, donc ce qui fait que la période la plus compliquée, en fait, en termes de préparation et d'anticipation, c'est celle qu'on est en train de vivre actuellement, et que, bon, après, on imagine bien évidemment que tout sera sur les rails, mais en ce moment, on aimerait bien avoir un peu plus de sécurité juridique, en fait, vis-à-vis des contrats qu'on signe aujourd'hui.
Ça veut dire que pour les promoteurs, on ne peut pas encore appliquer le tampon, le label RE 2020 pour l'instant. On est un peu bloqué, on attend les décrets d'application.
Absolument, les textes sont pas encore parus. Et les moteurs de calcul sont pas aujourd'hui totalement disponibles. J'imagine que le téléphone des bureaux d'études n'arrête pas de sonner en ce moment. Donc il y a cet effet un peu goulot d'étranglement qu'il faut gérer. Ouais.
Florence, si on rentre un peu dans le détail, on a l'impression que cette réglementation, elle fait quand même la part belle à l'électricité par rapport à d'autres énergies, le gaz notamment, et une petite levée de bouclier, puisque ben voilà, dans les nouveaux bâtiments, on aura de l'électricité plutôt que du gaz. Comment vous réagissez à cette nouvelle réglementation qui fait la part belle justement à l'électricité?
Je crois que si on veut obtenir, je dirais, cette neutralité carbone, il est factuel de constater que les énergies en l'état ne sont pas les mêmes, et qu'aujourd'hui, je dirais, la plus décarbonée est bien l'électricité, si je la compare aux autres énergies, notamment le fioul. Je crois que la personne ne peut aller.
Vous avez des chiffres justement sur les énergies carbonées, décarbonées, et avec un petit classement, c'est assez.
C'est assez parlant. De CO2, donc les 700 grammes de CO2 par kilowattheure pour le fioul, c'est à peu près 200 pour le gaz. C'est à peu près 70-80 pour l'électricité, et selon les types d'usage, notamment les pompes à chaleur, on tombe plutôt autour de 40 grammes de CO2 par mètre carré. Donc voilà les ratios, et ça, pour le coup, c'est pas juste une pro électricité qui parle, c'est la réalité des choses. Après, je voulais revenir tout à l'heure quand vous disiez, Fabrice, le label. Il y a deux volets. Il y a une RE 2020 avec toute une réglementation qui se met en place. Et puis, il y a aussi, après, ce qu'a souhaité le gouvernement avec la mise en place d'un label d'État, sur lequel, d'ailleurs, aussi, nous sommes en train de travailler. Nous avons une consultation à laquelle nous devions répondre la semaine dernière. Donc, il y a aussi là encore un autre volet parallèle, mais qui est là aussi, bien évidemment, pour être l'imprimature de ce que la RE 2020 donne comme disposition. C'est d'avoir un label d'État qui garantira en effet que tout ce qui est inscrit dans cette réglementation, ou une grande majorité, enfin, déterminé, il n'est pas sorti, hein, il est en construction. Est-ce que c'est un socle? Est-ce qu'on rajoute des choses au socle? En l'occurrence, ce sera un label qui sera pour nous en tant que certificateur. Là, c'est l'autre volet de Promotelec Service qui sera important pour nos activités au quotidien.
Très bien. Bon, ça participe également du plan de relance. Ce label, il va être applicable à partir de quand? Quand c'est que vous pensez qu'il pourra être visible.
J'imagine, je ne sais pas, Julien, tu me dis, mais j'imagine qu'on est parti aussi pareil pour 2022, non?
Il est pour l'instant prévu pour entrer en vigueur au 1er juillet 2022, effectivement. Donc là, l'État, c'est qu'effectivement, beaucoup de parties ont été concertées, et l'État va maintenant faire la synthèse de tout ça, et effectivement, on est sur une mise en application plutôt à l'été prochain, enfin l'été 2022.
Voilà, un petit peu plus d'une année maintenant, mais on sait que ça passe très vite, hein, notamment pour s'accorder évidemment sur les règles, la mise en application, etc., etc. Alors, Julie, on va aborder une question quand même qui fâche, c'est la question du coût. Évidemment, on est tous d'accord pour avoir des bâtiments moins énergivores, mieux isolés, qui respectent évidemment la planète. Mais il y a quand même une question du coût. Vous êtes bien placé, hein, à la FFB. Est-ce que cette nouvelle réglementation va renchérir le coût des bâtiments à un moment où c'est déjà très cher, hein, entre le foncier, les constructions, etc. Quid du coût?
Alors, bon, malheureusement, la réponse à la question, c'est oui. Effectivement, ces ambitions environnementales, énergétiques, qui sont, comme vous l'avez rappelé, indispensables pour la planète, et il faut que notre secteur aille de l'avant sur ces questions-là. Effectivement, par contre, tout ça n'est pas sans surcoût. Aujourd'hui, bon, après, tout dépend de où on part. On va se situer à peu près entre 5 et 10% de surcoût. Il se trouve que, comme on l'a un petit peu évoqué, on va plutôt passer vers des technologies type pompe à chaleur qui sont plutôt bien démocratisé en maison individuelle, beaucoup moins en logement collectif où on est très très orienté gaz. Bon, ben voilà, si vous partez d'un logement au gaz vers la pompe à chaleur, ou si vous êtes déjà en pompe à chaleur dans la RT 2012, enfin sur votre gamme de maisons ou d'appartements, forcément le surcoût ne sera pas le même. Donc tout dépend un petit peu sur quoi on se base, mais nous on table à peu près entre 5 et 10% de surcoût, puisqu'il y a la marche des bio moins 30% par rapport à l'RT 2012 qui a été annoncée, donc un renforcement de l'isolation de 30%, donc là qui est en tout cas à notre sens la plus grande marche à franchir au niveau de cette ère 2020, plus cette partie énergétique dont on a parlé, plus la partie carbone qui est un petit peu nouvelle, donc il y a forcément un petit peu d'apprentissage dans tout ça, plus les études carbone qu'il faut rajouter, plus un contrôle de ventilation à la fin du chantier. Vous voyez que tout ça cumulé, mine de rien, alors le surcoût ne sera pas directement imputé au consommateur, hein, mais voilà, c'est des surcoûts en tout cas que la filière dans son ensemble devra absorber.
Voilà, la filière doit absorber, ou le consommateur, ou un peu les deux, hein, parce quand on dit que c'est pas le consommateur, c'est sûr qu'à un moment, il faudra expliquer, il faut faire aussi preuve de pédagogie pour expliquer que dans le temps, évidemment, hein, Florence, ce sont des économies qui vont, quand on est mieux isolé, quand on a moins à se chauffer tous les jours, ça va se retrouver dans le temps. Donc ce surcoût, il est là au début, mais peut-être que par rapport à la maison du voisin, celle qui a été faite il y a 5 ans, il y a 10 ans, elle sera dans le temps beaucoup plus finalement économique.
Ben oui, et puis bon, après, il faut faire preuve aussi de pédagogie, hein. C'est-à-dire que, comme tu disais au début, la RE 2020, je pense que le commun des mortels ignore totalement de quoi il s'agit. Donc, il va se retrouver à un moment donné confronté aux impacts et aux conséquences de cette RE 2020, qui sont positifs, je dirais, globalement, hein. On ne va pas aujourd'hui dire qu'il faut polluer, on ne va pas dire aujourd'hui qu'il nous faut des passoires thermiques et qu'il faut gaspiller à la fois produire du carbone et gaspiller l'énergie. C'est fini cette époque-là. Il est clair qu'on ne peut être que d'accord maintenant sur les modalités d'application, sur le coût pour le porte-monnaie. Il est clair qu'il va y avoir aussi beaucoup d'apprentissage, beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup de communication à faire et d'accompagnement. D'accompagnement pour la vie du bâtiment et puis pour ses usages aussi. Enfin, ça ne s'arrête pas justement à donner juste un bâti et puis circuler, il n'y a rien à voir. Il y a le bâti, il y a l'énergie et la façon dont on exploite ce bâtiment, la façon dont en tant qu'occupant, on gère aussi sa vie au quotidien. Donc, ce sont des grands enjeux et je crois qu'il est urgent, enfin, il est vraiment urgent de pour ceux qui ne seraient pas encore, je dirais, au fait. De prendre conscience de la caractère obligatoire et obligatoire pas seulement parce que c'est une obligation et qu'on n'aime pas les contraintes et personne n'aime les contraintes, mais qu'il en va aussi de notre bien-être au quotidien et futur surtout.
Et futur, pour les futures générations. Julien Serry, une des dernières questions, ça va être justement comment la FFV, vous allez accompagner l'ensemble de la filière. Est-ce que sur cette sensibilisation, alors vous êtes au premier chef intéressé évidemment, pour la diffusion aussi par rapport au public, quelles sont les actions que vous allez mener là dans les prochains mois avant la mise en application réelle?
Alors nous, on a la chance d'avoir un réseau qui est présent dans tous les départements, dans toutes les régions, sur tout le territoire. Donc là, le but, ça va être, j'allais dire d'aller, mais ou alors soit de faire des visioconférences et des webinaires d'information. Je pense que maintenant, il faut pas hésiter à informer comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui, quitte à répéter. Et ensuite, on aura tout plein d'actions de communication, de documentation. On a notre convention nationale qui est basée sur des tests liés à la RE 2020 où des constructeurs de maisons et des promoteurs immobiliers vont tester en grandeur nature cette RE 2020 6 mois avant son entrée en vigueur pour voir un petit peu les impacts technico-économiques. Donc ça, au niveau de nos adhérents, on a des actions de communication fortes et puis ça va se poursuivre jusque après même l'année, même pendant l'année 2022. Et puis ensuite, au niveau, on va dire, un peu plus grand public, il va falloir qu'on axe notre communication sur l'impact sur l'occupant, parce que c'est vrai que c'est un des défauts, pas le seul, mais un des défauts qu'on peut trouver à cette erreur 2020, c'est qu'elle oublie peut-être un petit peu l'occupant. Et donc il faudra qu'on réaxe un petit peu les sujets pour que justement le citoyen pour lequel on fait des appartements et pour lequel on fait des maisons, lui aussi rentre un petit peu dans ce dans cette mouvance-là environnementale et qu'on arrive à l'embarquer au même titre que toute la filière dans ce créneau-là.
Oui, explication, pédagogie, on en parlait à l'instant. Florence, du côté de Promotelec, il y a des actions en particulier qui vont être menées pour mieux expliquer les enjeux de cette RE 2020.
Bah, je crois qu'il est cette communication que l'on va faire, elle tourne évidemment autour du confort dans l'habitat. Et bien évidemment, on va communiquer sur la RE 2020, on va communiquer aussi sur les avancées du label et puis, je dirais, les modalités d'application de cette RE 2020, de ce label aussi, c'est pareil que le pôle habitat FFB, c'est que le seul angle différent, c'est que nous, on a un triptyque de participants au sein du CA, donc il faudra en effet communiquer, l'habitant on l'a puisqu'on a les consommateurs, promoteurs, constructeurs on les a aussi, et puis du côté aussi énergie, avec aussi les électriciens, pouvoir communiquer sur notamment, pas que, mais notamment les modes de chauffage. En effet, on parle beaucoup de pompes à chaleur, parce que vous avez compris aujourd'hui, les pompes à chaleur sont vraiment celles qui émettent le moins de CO2, mais qui ne sont pas forcément adaptables dans tout, notamment dans le collectif, l'existence, ça va être compliqué. Mais voilà, tout expliquer, faire des campagnes de communication autour de ces éléments-là.
Ouais. Alors, on a un mot de conclusion, en tout cas on va dans le bon sens avec cette nouvelle réglementation environnementale, hein, Florence.
Oui, enfin, moi je suis totalement convaincue qu'on va dans le bon sens. Je dis toujours qu'il est urgent, comme il était urgent d'isoler, de renforcer les performances énergétiques, le confort aussi dans l'habitat quel qu'il soit. Cette réglementation, malgré ses contraintes, elle a un but positif, qui est de réduire les émissions de carbone, et je crois qu'il faut qu'on soit tous engagés. Il est urgent de ne pas aller en arrière et d'avancer à grands pas d'accompagner cette réglementation et surtout de l'appliquer.
Voilà, une nouvelle réglementation décarbonation, nouvelle réglementation environnementale 2020, en tout cas, à n'en pas douter, un tournant dans l'industrie du bâtiment. Écoutez, on en sait un petit peu plus grâce à nos spécialistes. Un grand merci à Julien Séry, délégué national aux affaires techniques Pôle Habitat de la FFB. Et merci également à Florence Delettre, la directrice générale de l'association Promotelec. Bonne journée à tous, on se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Confort dans l'Habitat.
Le Confort dans l'Habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.